L'actualité culturelle et artistique de votre région avec Mag Culturel sur Radio Alpes-Mancelles.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Un jeu de société sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous commençons avec Alain Pasquini qui crée des versions améliorées de grands jeux de société. Alors, Monsieur Pasquini, bonjour.
Bonjour, Joséphine.
Pour commencer, présentez-vous. Dans un premier temps, quel est votre parcours professionnel ?
Déjà, bonjour à tous vos auditeurs. Personnellement, j'ai eu une carrière professionnelle dans l'industrie. J'ai commencé par travailler pour Bull, après les chantiers de l'Atlantique, après plusieurs petits emplois ThyssenKrupp. Et sur les deux grosses principales entreprises, en fin de compte, j'ai eu des licenciements économiques, donc qui m'ont fait un petit peu bifurquer de ma destination primaire.
Et quelles sont vos formations de base ?
À la base, alors j'ai qu'un CAP et un BEP électronique qui m'ont fait pouvoir travailler à Bull. Et après, j'ai récupéré un niveau BAC. Et après, j'ai fait une formation BAC plus 2 pour évoluer simplement au niveau de Bull. Voilà.
Et justement, pourquoi avoir changé d'orientation professionnelle ?
Bah parce que ça faisait quand même un petit peu moins de 40 ans que je travaillais dans le milieu industriel et mon deuxième licenciement économique de ThyssenKrupp. J'avais créé un jeu dans les années 1990, donc avant ce nouveau temps de l'an 2000. Et je l'avais laissé dans un fond de tiroir. J'en avais fait quelques exemplaires pour des amis et la famille. Et du coup, j'ai ressorti ce vieux projet pour monter ma petite société de jeux de société.
Et pourquoi justement mettre en avant le jeu ? Est-ce que petit, vous aviez déjà un attrait pour les jeux de société ?
Pas forcément. J'avais joué au Monopoly, ce qui se faisait dans le temps, et beaucoup aux cartes, au tarot, à la belote. Un petit peu au poker pour m'amuser, mais après, j'ai eu des jeux comme le risque, donc des jeux où il y avait un petit peu de conquête, des échecs, des dames, mais sans plus, quoi. Mon principal divertissement, c'était le bowling. Et je faisais que du bowling.
Et comment vous en êtes venu à créer justement vos propres jeux ?
Alors j'ai commencé parce qu'un jour on m'a offert un jeu de petits chevaux canadiens par une personne qui revenait du Canada. Et c'était du temps où ça ne se jouait qu'à 4, donc 2 contre 2. Et j'y ai joué pendant au moins 6 mois, donc avec ma femme contre mon frère et sa femme. Et jusqu'au jour où j'ai perdu, alors le but est de sortir les 4 chevaux, tout comme à notre jeu de petits chevaux français, et de les amener simplement dans leur maison, de les stocker dans leur maison. Et la différence, c'est aussi que ça joue avec des cartes et non plus avec des dés. Et pendant 6 mois, on jouait régulièrement et beaucoup. Donc c'était légèrement addict. Jusqu'à un jour où j'ai perdu avec ma femme, ils ont rentré leurs 8 pions et on n'en a rentré qu'un. Autant dire qu'on n'a pas du tout eu de jeu, de bonnes cartes pour jouer. C'est un petit peu comme à la belote, quand vous perdez 1000 à 100, vous voyez pas de jeu et vous subissez, quoi. Sauf qu'à la belote, ça dure 20 minutes et on refait une autre partie où toutes les deux équipes repartent à zéro. Et nous, sur la partie de petits chevaux canadiens, on y a passé 1h15. Grosso modo, sur l'heure et quart à laquelle on a joué, et ben pendant 3/4 d'heure, on a été frustrés et on faisait la gueule.
Et présentez-nous justement les autres jeux que vous avez créés.
Donc, suite aux petits chevaux canadiens que j'ai modifiés, donc en augmentant le nombre de joueurs et puis en faisant un plateau avec des parcours modulables. Après, j'ai repris un petit peu le jeu de Dame Angevine. Enfin, j'ai fait mon jeu de Dame Angevine où je reprenais le jeu de Dame Chinoise, où je jouais quelquefois dans des événements ludiques et avec lequel je perdais tout le temps. Donc j'en avais un petit peu marre, peut-être frustré aussi. Donc j'ai fait mon propre jeu de dames où l'avancée des dames se fait en fonction de 2 dés, d'un jet de 2 dés. On a un dé qui va nous dire le nombre de dames qu'on va faire évoluer, marche avant, marche arrière, sur les côtés, on fait ce qu'on veut, d'après les chemins qui sont tracés sur un plateau. Et le deuxième jeu qui va dire la longueur de chaque déplacement. Ensuite, j'avais fait donc ce premier jeu convivial, le jeu du pas, donc jeu de petits chevaux canadiens, mes dames Angevine, le jeu de dames chinoises modifié. Et après, j'ai fait 2 nouveaux jeux, mais que je voulais destiner aux enfants. Donc, je me suis amusé à faire un jeu, parce que je voyais plein de jeux dans les boutiques où on s'occupait d'addition, où on s'occupait de multiplication, où on s'occupait de division. Mais on n'avait jamais, en fin de compte, la possibilité de jouer avec tous ces signes-là. Donc j'ai dit, il doit y avoir quelque chose à faire. Et en faisant un jeu très très simple, que je destinais aux enfants de classe primaire, eh ben, j'ai fait un petit jeu qui permet de calculer autrement que ce qu'on nous enseigne, en fin de compte, dans les écoles. Et ce jeu-là, donc pendant 2 ans, je l'ai présenté sur les marchés ainsi que mes autres jeux. Je vendais sur les marchés ou lors d'événements ludiques ou dans les marchés de Noël, sur les marchés de Noël. Et lorsque je présentais mon jeu de mathématiques, j'ai énormément de professeurs et d'instituteurs qui ont testé le jeu et qui, pour une bonne majorité, sont repartis avec le jeu en poche et je me doute qu'ils se sont amusés avec leurs élèves. Donc il y a certains professeurs au niveau d'Angers qui m'ont proposé de faire des présentations donc dans des écoles. Donc je suis allé dans 3-4 écoles primaires, dans 2-3 collèges, dans un lycée technique. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, les jeunes de notre temps, heureusement qu'ils ont une calculatrice ou un smartphone pour faire des opérations parce que mentalement, le calcul mental a bien disparu. Donc j'ai trouvé que c'était sympa. Et puis je me suis aperçu aussi à utiliser mon jeu que l'école primaire, c'était bien pour découvrir, pour faire plein de choses, pour prendre du plaisir avec les chiffres et le calcul, mais ça permettait aussi aux enfants du collège de s'apercevoir de leur lacune en calcul mental. Et ça, c'était relativement frustrant aussi, mais tout comme les professeurs qui passaient et les instituteurs qui passaient à ma table, eux non plus n'étaient pas capables, sur les premières parties, de jouer puis d'optimiser en fin de compte leur jeu en fonction de ce que je leur proposais comme carte, parce que ça demande de réfléchir différemment. Grosso modo, c'est ça. Et suite donc aux présentations de mes jeux sur les marchés, j'avais beaucoup de gens aussi qui passaient à côté de ma table, et quand je leur proposais de tester mon jeu de mathématiques, ils me disaient « excusez-moi, je suis plus littéraire ». Donc lorsque j'ai vendu la première édition, j'ai fait une édition de 1000 jeux au départ. Lorsque j'ai eu pratiquement fini de vendre mes 1000 jeux, j'ai dit que je me relançais dans une édition de 1000 jeux, et j'ai voulu faire un jeu aussi qui intéressait les gens qui jouaient avec les lettres. Donc j'ai fait, avec le même principe d'attribution de points qu'aux mathématiques, le jeu La Boîte aux Lettres, qui permet en fin de compte, tout comme au Scrabble, d'écrire des mots, et en fonction des mots qu'on a écrits, en fin de compte, on va calculer un nombre de points, un petit peu comme au Scrabble, sauf qu'on n'a pas positionné ces mots-là sur un plateau avec des lettres comptes doubles, des mots comptes triples, etc., etc. Mais on se contente à chaque coup, avec les mêmes cartes, d'essayer de faire plus de points en fonction de points qui sont attribués à chaque carte. Donc, ce qui en fait un jeu beaucoup plus dynamique et accessible et transportable.
Et comment vous avez créé déjà ces deux jeux ?
Donc, le jeu du pas, donc le jeu de petits chevaux canadiens, avec lequel j'avais joué pendant quelques temps avec mon frère et nos femmes respectives, on y a joué pendant longtemps et on s'est aperçu, en fin de compte, suite à la défaite cuisante de 8-1 qu'on avait subie, qu'en fin de compte, il y avait quelque chose qui était pas normal ou qui n'était pas admissible, c'est qu'on puisse être frustré pendant si longtemps. Donc j'ai dit, ou on a dit, ce qui serait bien, c'est d'augmenter le nombre de participants sur une partie, de manière à ce que si une équipe était vraiment favorisée par le tirage des cartes, les autres pourraient éventuellement se regrouper contre elle et ça pourrait lisser un petit peu la partie. Donc on a testé pour faire un plateau avec 6 joueurs, 8 joueurs, 10 joueurs, 12 joueurs. Bon après c'était excessif. Donc moi je me suis arrêté à 8 joueurs parce qu'à 8 joueurs ça me permettait aussi de pouvoir faire des parcours différents et ça me permettait de jouer aussi un nombre pair qu'à un nombre impair de joueurs. Alors que le même type de jeu qui se trouve dans le commerce, comme ça s'appelle le TOC, ou ça s'appelle Dactic, ou le DOG, qu'on est capable de trouver dans les magasins de jeux, par rapport à ces jeux-là, je pouvais jouer à un nombre impair de joueurs, alors qu'eux ne peuvent pas. Donc moi, mon plateau, il permet de jouer de 2 à 8 joueurs, en empruntant des parcours différents en fonction du nombre de joueurs qu'on est. À partir de là, lorsque j'ai présenté mon jeu, donc on l'avait testé, on l'avait validé dans ce qui était ma famille, etc., donc dans les années 90, début 2000. Et après, donc en 2016, lorsque j'ai été amené à créer ma société suite à mon deuxième licenciement, j'ai ressorti mon jeu et j'ai mon beau-frère qui travaillait dans la publicité, qui m'a pris mon plateau et qui m'en a proposé un exemplaire dans un matériau composite, donc un nouveau matériau que je connaissais pas dans les années 90. Et à partir de là, je me suis aperçu que le matériau était beaucoup plus facile à travailler que le bois. Et on avait possibilité de pouvoir imprimer des dessins sur le plateau. Donc c'est ce qui m'a permis d'évoluer donc, de mon plateau en bois, même si c'était beaucoup plus noble, à un plateau en ce qu'on appelle du PVC extrudé ou du Forex, qui permet d'avoir des visuels distincts d'imprimer sur le plateau. Après, il me reste toujours mes 190 trous à faire avec ma colonne de perçage, à fabriquer mes pions, à dupliquer ma règle que j'ai écrite. Et à partir du moment où j'avais cela, je pouvais proposer aux gens de m'acheter des jeux avec une règle, des pions et des jeux de 52 cartes. Et par la suite, lorsque j'ai présenté ce jeu-là, qui avait l'intérêt donc de ses parcours et du fait de pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs dans des événements ludiques, dans des festivals de jeux, etc. Les gens m'ont dit « Oui, mais le tactique, ce qui est bien avec le tactique, c'est qu'il a ses propres cartes où il explique les fonctions des cartes. » Donc, à savoir que le tactique, c'est ni plus ni moins un jeu qui a été détourné du TOG, jeu de petits chevaux canadiens, à partir des années 95. Et lui avait, en fin de compte, créé ses propres cartes. Donc, il jouait plus avec un jeu de 52 cartes, mais un jeu de 48 ou 49 cartes. Et il avait sur les faces de ses cartes, non plus un valet, une dame, un roi, etc. Mais il avait des cartes avec des chiffres, parce que par exemple, la dame permettait d'avancer de 12. Donc lui, il avait une carte qui s'appelait plus une dame, mais qui s'appelait un 12. Le valet permettait d'échanger un de ses pions avec celui d'un autre joueur. Lui, il l'avait appelé la fonction permutée. Donc il avait fait des cartes qui étaient intéressantes dans le sens où ça permettait aux anciens ou aux jeunes joueurs de s'approprier beaucoup plus facilement le jeu. Donc à la base, j'ai oublié de vous dire aussi, le jeu de petits chevaux canadiens, c'est un jeu de petits chevaux, mais qui va plus se jouer avec des dés, qui va se jouer avec un jeu de 52 cartes. Donc 52 cartes, ça veut dire 13 cartes différentes, alors qu'un dé, ça n'a que 6 faces. Et sur les 13 cartes différentes, on a une majorité de cartes qui permettent d'avancer, comme le 2, le 3, le 5, le 6, le 8, le 9, le 10, etc. Mais par contre, on a aussi des cartes stratégiques, comme le 4, qui obligent de reculer un de ses pions de 4 cases. Donc on pourrait croire que c'est une carte négative, sauf que si on vient, alors il faudrait avoir le plateau de jeu pour que ce soit beaucoup plus visible, mais si on venait de sortir un pion, un cheval de son écurie, si on avait le fameux 4 qui permet de reculer de 4 cases, et du coup on se retrouverait juste devant sa maison. Ça éviterait de faire tout le tour du parcours. Donc il y a cette carte-là. Il y a une autre carte qui permet, le valet, qui permet d'échanger un de ses pions avec celui d'un autre joueur. Donc même si on est en approche de sa maison, on risque toujours d'avoir un joueur qui vienne s'échanger avec nous pour nous éviter de rentrer dans notre maison ou pour lui s'avancer plus près de sa maison. Donc c'est un jeu de petits chevaux où il va y avoir de la stratégie et de la technique. En plus, lorsqu'on joue à un nombre pair, on va avoir la possibilité de jouer en équipe. Donc à partir du moment où on dit jeu d'équipe, ça veut dire un petit peu plus de réflexion parce que après chaque petite distribution de cartes, donc 4 ou 5 à chaque coup. Après chaque distribution de cartes, les joueurs d'une même équipe, ce sont ceux qui se font face, les joueurs d'une même équipe doivent s'échanger une carte face cachée. C'est-à-dire que si on n'a pas de bonne carte pour nous, éventuellement, on peut avoir une bonne carte pour donner à notre partenaire, pour l'aider à rentrer, pour l'aider à se déplacer, pour l'aider à sortir, pourquoi pas. Si par exemple, sur mon parcours, j'ai déjà deux pions de sortie, deux petits chevaux, et que mon partenaire n'en a pas du tout, lors d'une distribution, si j'ai un as ou un roi, donc ce sont au toc, enfin au jeu de petits chevaux canadiens, l'as ou le roi qui permettent soit de sortir un pion, soit d'avancer. Si j'ai une carte qui permet de sortir un pion, j'aurai intérêt à lui donner de manière à ce qu'il puisse jouer parce que je ne sais pas si dans la distribution, lui a reçu un as ou un roi. Donc, on ne va plus faire attention qu'à ses petits pions, mais il va falloir aussi regarder les pions de son partenaire pour voir si on peut l'aider d'une manière ou d'une autre. Et ça permet aussi de voir un petit peu, en extrapolant, le fonctionnement des joueurs, s'ils sont plutôt personnels, égoïstes, s'ils pensent plus à eux qu'à leur partenaire, etc., etc. Donc, on peut faire des petites analyses à 4 sous sur les gens qui jouent. Et en plus, ça permet souvent de procurer un petit dialogue pendant le jeu en disant « Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas donné cette carte-là alors que tu l'avais ?» Donc, ça met un petit peu d'ambiance dans le jeu et c'est très marrant. Donc, on va avoir des cartes spécifiques. Donc, l'As et le Roi qui permettent de sortir, le Valet qui permet d'échanger un de ses pions, le 4 qui oblige à reculer de 4 cases un pion. Et on a surtout comme grande différence avec le jeu de petits chevaux que l'on connaît, c'est que sur le petit chevaux qu'on connaît, si on a un pion devant nous, par exemple à 3 cases de nous, si on fait avec un dé 5 ou 6, on n'a pas le droit de le dépasser. Au petit chevaux canadien, sur le parcours, si vous avez une carte qui vous fait évoluer plus loin qu'un pion qui vous précède, et vous le dépassez sans problème et vous faites votre nombre. Si vous avez 8 cases à passer et que vous aviez un pion adverse sur la sixième case, et vous passez par-dessus sans le manger et vous installez deux cases devant lui. Ça, c'est le premier gros intérêt. Puis le deuxième intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de s'arrêter devant sa maison et puis ensuite faire un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 et un 6 pour sortir. Mais là, il suffit simplement de rentrer ses pions dans sa maison. Et en plus, on n'est pas obligé de s'arrêter. Si on est, par exemple, deux cases avant l'entrée de sa maison, et si on a un 6, on peut faire 1, 2 sur le parcours et puis monter le 1, 2, 3, 4 dans sa maison et on aura le premier pion de positionner tout en haut de sa maison. À partir du moment où un des deux joueurs d'une équipe a rentré ses 4 pions, dans ces cas-là, parce que ce sera son tour de jouer, il jouera les pions de son partenaire et à partir du moment où les 8 pions d'une équipe sont rentrés dans leur maison, la partie est terminée et l'équipe a gagné. Voilà en résumé comment se joue le jeu de petits chevaux canadiens et le jeu du pas en l'occurrence.
Parlons des dames.
Les dames, donc... comment ça m'est venu? J'avais une nuit, parce que ça arrive souvent quand on essaye de créer ou on a la chance de penser à des choses la nuit, on se réveille et puis on prend un crayon, puis on gratte un petit peu sur un papier et j'avais fait. Donc une nuit, j'avais gratté des choses sur un papier qui pouvait ressembler à un plateau de jeu avec plein de chemins, qui était un plateau carré, qui reliait plein de chemins, en fin de compte, sur un plateau. Et je savais pas quoi en faire de ce plateau-là, et donc je l'ai finalisé, je l'ai fait joli, etc., etc. Mais je l'avais toujours dans un tiroir, et un jour j'avais des jeux du pas, j'allais faire des démonstrations, des présentations dans des associations d'anciens. Et un jour, dans une association qui avait mon jeu du pas, il y a une personne qui m'a dit « Monsieur Pasquini, c'est bien votre jeu, mais le problème c'est que lorsqu'on rentre chez nous, là on est à l'association, il y a plein de gens, mais lorsqu'on rentre chez nous, moi je me retrouve seul avec mon mari, et ben, c'est difficile de jouer votre jeu de petit show à deux, quoi. Ce qu'il faudrait, c'est que vous nous fassiez un jeu pour jouer à deux ou quatre. » Alors, ça se crée pas forcément sur commande des jeux, mais j'ai eu une révélation. Mais une autre nuit, j'ai repensé à ce plateau qui servait à rien dans mon tiroir, et je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu de dames. Donc, le jeu de dames est simple. On part d'un côté, le but, c'est d'arriver sur les positions de départ de l'adversaire en face de soi. J'avais quatre côtés, donc je pouvais faire jouer soit deux personnes face à face, ou soit quatre personnes, enfin, celles qui étaient face à face, l'une contre elle à chaque coup. Donc, ça faisait quelque chose comme deux parties sur un même plateau. Et donc, j'ai testé, j'ai fait des essais, j'ai proposé lors de manifestations ludiques, et il y a certaines personnes qui ont mordu lors du festival Le Flip, donc le festival ludique international de Parthenay, qui a lieu au début, genre, début juillet, tous les ans. J'avais présenté ce jeu, et il y a plein de joueurs qui étaient venus, et dont un qui testait beaucoup de jeux, et qui m'avait donné un petit conseil sur le fait, lorsqu'on joue à 4, de ne plus mettre que 4 dames à la place de 5, ce qui permettait d'aérer un petit peu le plateau de jeu. Donc j'ai retenu ça à leçon, et sur ma règle, j'ai dit, on peut jouer à 2 avec les 5 pions, et on peut jouer à 4, soit en utilisant les 5 dames, ou 4 dames simplement de manière à alléger un petit peu le plateau, à pouvoir voir un petit peu, avoir des vues d'ensemble plus faciles. Donc le principe, on est sur une ligne de départ de la couleur des dames, et l'objectif va être d'aller positionner ses pions sur la position de départ de l'adversaire en face de soi. Dès qu'une dame arrive sur une des positions de l'adversaire, de départ, dans ces cas-là, elle est devenue intouchable. Il reste donc 4 emplacements pour mettre 4 de ces dames restantes. À partir de là, donc, ce qu'il fallait savoir, c'est définir comment trouver les déplacements, et j'avais pensé aux dés, donc j'ai modifié des dés dans un premier temps, et par la suite, j'ai réussi à acheter des dés où il n'y avait que des 1, des 2 et des 3 sur 2 faces, donc de chaque dé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas en teinter un, en colorier un, et en laisser un blanc. Ça me permettrait de faire 2 choses différentes. Encore faudrait-il savoir quelles choses. Et en réfléchissant un petit peu, puis suite à des conseils, etc., des tests, etc., j'ai défini que un dé servirait, donc j'ai fait un dé de couleur et un dé, j'ai laissé un dé blanc. Le dé de couleur me servirait à définir le nombre de dames qu'on devrait faire évoluer sur le plateau. Donc marche avant, arrière, sur les côtés, comme on veut. Et le dé blanc dirait le nombre de cases que je devrais avancer ou reculer, etc., en suivant des chemins prédéfinis sur le plateau. Et de ce fait, avec ce type de déplacement, il y arrivait 2 conflits possibles. Soit lors d'un déplacement, j'étais capable d'enjamber un pion, ou soit lors d'un déplacement, j'étais capable d'arriver sur une position déjà occupée. Donc ce qu'il fallait, c'est que je trouve 2 résolutions à ces problèmes. Donc j'ai dit, c'est l'avantage quand on décide des règles du jeu, on fait un petit peu ce qu'on veut. J'ai défini que à partir du moment où, lors d'un déplacement, on enjambait un pion sur le parcours, le pion enjambé, on le ramènerait sur une de ses positions de départ. Mais attention, on en ferait aussi un défenseur qui serait là à nous attendre. Et au cas où, lors d'un déplacement, on arriverait sur une position occupée, dans ces cas-là, on prendrait la position occupée et le pion qui était précédemment, on le mettrait sur une case rattachée à cette case-là, donc une case adjacente. Et j'ai testé avec ces règles-là, donc lorsque j'étais au flip, j'ai testé avec ces fonctions-là, et ça a très bien marché. Ça permet de faire un petit jeu casse-tête, stratégie si on veut, mais gentil quand même, qui permet de jouer pendant une partie dure entre un quart d'heure et 20 minutes. Donc grosso modo, on peut faire une première manche, une revanche et une belle, pourquoi pas, dans l'heure qu'on a de disponible. Suite à ça, donc j'avais appelé ça les dames angevines. Je trouvais ça très bien parce que moi-même étant angevin, ça me parlait. En plus, Angers, c'était la ville des Plantagenêts, donc des rois. Donc les rois, la fleur de lys, Angers. Donc sur chaque pion, j'avais une fleur de lys de dessinée. Et donc sur un fond, soit vert, soit bleu, soit rouge, soit rose. Et du coup, j'ai appelé ça mes dames angevines. Et j'avais mes 5 pions de couleurs différentes avec une fleur de lys. Donc je trouvais que ça découlait bien. Jusqu'au jour où, il y a deux ans et demi, je suis allé en Bretagne, parce qu'à chaque coup que je pars en vacances, je propose mes jeux dans les magasins, au cas où ils sont intéressés pour les distribuer. Donc le jeu du pas est distribué par plusieurs magasins en juin. Il est distribué aussi à la boîte à jeux qui se trouve au Mans. Il est distribué aussi à Sortilège, au Mans. Il est distribué à Tours, aux Herbiers, enfin un petit peu partout. Donc j'étais à ce moment-là à côté de Vannes et j'avais présenté mon jeu du pas et mathématiques à ce moment-là. Et la responsable du magasin me dit « Mais vous n'avez pas d'autres jeux en cours ?» Je dis « Bah si, j'ai les dames Angevines dans ma voiture, mais j'ai pas de boîte de fête, donc il n'est pas vendable comme ça mon jeu. » Elle me dit « Bah vous pouvez peut-être éventuellement me dire ce qu'il en est et puis me le montrer pour que je me fasse un avis. » Je dis « Bah pas de problème. » Donc j'ai été chercher mon jeu de dames Angevines. Alors inutile de dire que j'essayais lorsque j'étais en vacances, j'allais aussi sur des marchés et je proposais mes jeux à la vente. Sur les marchés, et des dames Angevines, j'en vendais pas. Ça, c'est l'évidence. Autant lorsque j'allais sur la côte atlantique, côté Vendée, que côte atlantique, côté Vannes et compagnie. Donc, je suis arrivé devant la responsable du magasin, je lui ai montré mon jeu, elle me dit, bah, il est joli. Ah, puis en plus, les règles sont écrites dessus, elle les dit, bah, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est beau. Franchement, il est agréable, votre jeu. Elle me dit, par contre, il a un très, très gros défaut. Je dis, bah, je comprends pas, vous me dites que c'est beau. Vous me faites plein de compliments et vous me dites, bah oui, il s'appelle les dames Angevines. Et je dis, et alors? Je dis, je suis angevin, les Plantagenêts, Fleur de Lys, la Royauté, tout se tient. Il me dit, oui, mais ici, vous êtes à 10 km de Vannes. Et si vous voulez vendre un jeu que vous fabriquez artisanalement, si vous n'avez pas des hermines ou des triskels sur les pions, vous ne vendrez jamais un jeu en Bretagne. Donc du coup, elle me dit ce qu'il faudrait, moi je suis prêt à le vendre votre jeu, mais à condition que bah, vous mettiez des hermines et des triskels en visuel sur les pions, et surtout vous enleviez votre nom de dame Angevine et vous appelez ça autrement. Donc du coup, j'ai refait mon même plateau avec des couleurs différentes, de manière à augmenter un petit peu le contraste, un petit peu sur le plateau, enfin point de vue visuel d'après moi. Et du coup, j'ai appelé le nouveau plateau les Damoiselles. Donc les Damoiselles ne sont ni plus ni moins qu'un jeu de dame Angevine, mais qui permet de régionaliser un petit peu le jeu de dames. Par exemple, en Bretagne, je fais donc des plateaux de jeux, et je propose à la vente, lorsque je vais en vacances là-bas, et j'arrive à en vendre, des jeux avec des triskels, que des triskels, que des hermines, ou des triskels et des hermines mélangées. Et lorsque je vais sur la côte atlantique, côté Sable d'Olonne, Vendée, eh ben, j'ai mes dames vendéennes, où là, j'ai des cœurs entrelacés, avec sur fond vert, jaune, rouge ou bleu. Et du coup, j'ai mes dames moiselles régionales, donc mes damoiselles vendéennes. Éventuellement, je peux avoir mes damoiselles, parce que les plateaux sont tous identiques, qui seraient angevines, mes damoiselles angevines, en associant mes pions que j'avais sur l'autre plateau, sur mon plateau de damoiselles. Si demain, j'irais en Corse, pourquoi pas, et que mon jeu avait un intérêt à jouer là-bas, on pourrait jouer non pas avec des pistolets ou des fusils, mais avec des têtes de mort. Donc la fameuse tête corse, sur des fonds différents. Donc ça permet de régionaliser un petit peu le jeu, et c'est un aspect commercial que j'avais pas du tout vu, parce que un petit peu loin de ça, enfin, loin du commerce, non, pas du commerce, mais c'est pas notre souci premier lorsqu'on est auteur de jeu, quoi. On s'intéresse plus au contenu qu'à comment il va se vendre. Donc voilà comment sont nés, en fin de compte, le jeu de petits chevaux canadiens, années 90-2000, les Damoiselles, donc 2017-2018, et après, il y a eu mathématiques en 2019. Après, on a eu le Covid. Malgré ça, bah, j'en ai vendu quand même quelques-uns. Et 2021 est sorti le jeu de boîte aux lettres, qui est donc mathématiques et la boîte aux lettres, des jeux ludo-éducatifs avec lesquels on peut jouer aussi bien avec nos aînés qu'avec nos enfants, nos petits-enfants, très facilement.
Et justement, est-ce que vous avez des projets en perspective ?
J'ai la chance de faire partie d'une association qui a été montée il y a 2-3 ans, qui s'appelle le Bocal, Bocal 49. J'en profite pour remercier les gens qui l'ont créé, parce que ça permet, en fin de compte, à des créateurs angevins et du pourtour d'Angers, de se retrouver 2 fois par semaine dans une maison de quartier à Angers, qu'on nous prête. Et chaque créateur, en fin de compte, ils ont tous une multitude de jeux dans la tête. Et par contre, le plus dur, c'est pas d'avoir des idées, mais de commencer à les concrétiser, les affiner jusqu'à arriver à un jeu qui est jouable et compréhensible rapidement. Après, dans les étapes d'édition, c'est compliqué parce que si une personne ne prend pas le risque de s'auto-éditer, donc à un certain moment d'être satisfait du résultat obtenu par son jeu, par sa jouabilité, par son visuel, etc., etc., s'il n'a pas pris la responsabilité de s'auto-éditer, donc ce qui coûte un petit peu d'argent et on ne sait pas ce qu'il vendra quand on le fait éditer, faut attendre et présenter son jeu à des éditeurs ou que des éditeurs viennent le voir jusqu'au moment où, ça arrive pour certains, ils viennent vous mettre la main sur l'épaule ou ils vous contactent et vous disent « votre jeu, il est super bien ». Et dans ces cas-là, il peut arriver une négociation entre l'auteur de jeu et l'éditeur de jeu sur le fait de lui donner accès à son jeu, donc lui vendre quelque part son jeu contre des royalties qui pourraient subvenir par la suite à la vente de ce jeu. Et à partir du moment où l'auteur de jeu signe un contrat avec l'éditeur de jeu, donc l'éditeur de jeu est toujours intéressé soit par la mécanique du jeu, ou soit le visuel ou l'idée qui en émane. Donc, à partir du moment où on a vendu ou on a proposé un jeu à un éditeur et qui, lui, est intéressé par le jeu, donc il y a des négociations sans doute financières, moi, personnellement, j'en ai jamais fait pour l'instant, et après, l'éditeur de jeu peut modifier tous les visuels, enfin, peut modifier ce qu'il veut, en fin de compte. Il aura simplement acheté l'idée et il donnera des royalties en fonction du nombre d'exemplaires vendus, de la quantité de jeux vendus. Et donc, dans mon association, actuellement, jusqu'à l'année dernière, on avait une personne qui avait édité il y a longtemps un jeu qui avait eu une très brève carrière, et on a eu un autre jeu qui a été fait par M. Nicolas Bonneau, qui a créé un jeu de palais, Les Papates. Et c'est un jeu qui, dernièrement, donc il a été invité en Hollande parce que ce jeu-là a été primé, ça a été le meilleur jeu de société extérieure, donc en tant que jeu de palais, vendu en Hollande, donc aux Pays-Bas. Et en France, il se vend très bien et il est présent dans tous les magasins de jeux qui ont des jeux d'extérieur. Très beau jeu et très très amusant. Donc lui avait fait son jeu, l'avait proposé au Flip, l'avait montré au Flip, avait fait par la suite, vu qu'il avait été très bien reçu par le public, il avait demandé un financement participatif pour faire quelques centaines de jeux qu'il a écoulés. Et à partir du moment où donc l'éditeur a dû voir l'engouement du public pour ce jeu-là, et l'éditeur a été le voir et maintenant fabrique. Donc c'est un jeu qui est fabriqué par Tactic, gros éditeur de jeux. C'est celui qui a inventé le Molki, qui a édité le Molki. Donc c'est un super éditeur de jeux. Et non seulement il est super éditeur de jeux en France, mais aussi à l'étranger, parce que c'est une société internationale. Et donc son jeu est disponible en Hollande, en France, et il doit y avoir des pourparlers pour qu'il soit diffusé dans d'autres pays encore. Donc, beau jeu, avec un très bel éditeur qui le met bien en valeur, et franchement, une grande fierté d'être son pote. Donc ça, c'était il y a 2 ans, et cette année, on a 3 éditeurs différents, qui sont intéressés à 3 jeux différents d'auteurs du bocal. Donc on a M. Laurent Prin, qui a son jeu qui s'appelle Maudit, donc M-O-T-S-D-I-T-S, plus loin Maudit, M-A-U-D-I-T-S. On a Monsieur Olivier Mousse qui, lui, se fait éditer depuis donc le mois de septembre. Le jeu est sorti en mois de septembre sur un jeu d'ambiance, en fin de compte, qui s'appelle Le Point sur la table. C'est un jeu très simple, mais qui met énormément d'ambiance. Et là, la semaine dernière, on a su par notre petit mail interne qu'il y avait Monsieur Antoine Huchin, donc un autre membre du bocal, qui avait un jeu qui était édité et qui allait sortir le 5 décembre pour un public de 5 à 12 ans. Donc un jeu pour enfants, où c'est un jeu basé sur les grimaces. Donc malheureusement, le jeu ne sera pas disponible en magasin, mais faudra le commander par un éditeur qui fonctionne que par commande, etc.
Et justement, comment ça se passe si l'on souhaite acheter vos jeux ?
Alors, il y a 2 possibilités, enfin, il y en a plein d'ailleurs. Soit vous avez un magasin qui distribue les jeux, donc dans ces cas-là, vous aurez le jeu au prix du magasin, ce qui est tout à fait normal, parce que lui, il a des frais de personnel, de locaux, etc. Il y a possibilité de les avoir en me contactant par mon site. Donc j'ai un site qui s'appelle www.le-6, jeu, J-E-U, tiré du 6, du, D-U, tiré du 6, pas, P-A-S, .com. Et sur mon site, en fin de compte, je parle un petit peu de moi, et je parle du jeu du pas, des dames angevines ou damoiselles, du mathématique et de la boîte aux lettres. Et côté intéressant, c'est qu'il y a des vidéos d'explicites pour le mathématique et la boîte aux lettres. Donc ça, c'est un intérêt. Donc on peut commander par le site, ou au moins vous aurez mon téléphone et vous pourrez me contacter. Mais je dois avoir une page aussi pour commander. Mais j'y fais très peu attention parce qu'on a je sais pas si c'est une société, mais on a quelque chose à Angers. Peut-être que vous avez la même chose en Sarthe. On a un site qui s'appelle Angers Shopping, donc tout attaché, www.angers-shopping.com. Et sur ce site-là, en fin de compte, c'est un jeu où tous les artisans d'Angers proposent leurs produits et peuvent vendre leurs produits. Et l'avantage, c'est que les coûts de commande d'expédition sont très réduits. Actuellement, ils sont même gratuits, les coûts d'expédition. Et Angers Shopping ne nous prend pas actuellement de commission. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, parce que moi je sais que j'ai vendu des jeux par mon site, j'étais obligé donc de les faire passer par la poste, et grosso modo pour un jeu du pas ça me coûtait 9€, alors que là ça me coûte rien, et franchement c'est topissime. Donc actuellement, même quand j'ai des commandes ou des coups de téléphone, je leur dis passez par Angers Shopping, vous avez tous mes jeux. Alors, tous mes jeux, à l'exception de deux, parce que je vends aussi mes jeux de cartes, mais pour l'instant, ils n'ont pas été intégrés à tout le panel de jeux qui sont disponibles, qui sont fabriqués par moi-même. Donc, j'ai fait ce qui se devait faire de manière à ce que ça soit mis sur la page. Et à partir de là, vous avez les prix, vous avez les jeux, vous faites votre commande, votre panier, vous réglez avec votre carte bleue. Ce n'est débité qu'à partir du moment où moi, j'ai l'information et que je dis « oui, j'ai tous les produits » et je vous les amène, je les mets à disposition pour la personne. Donc à partir de là, je valide, le compte est débité. Moi, de mon côté, j'amène mes produits ou on vient me les chercher à mon domicile, parce que j'ai pas de boutique. On vient me les chercher ou je les amène donc à Angers Shopping. Eux s'occupent du conditionnement et de l'expédition des jeux. Actuellement, j'ai jamais eu un problème de transport, pas un problème d'expédition de jeux. Donc, pour l'instant, j'en suis totalement satisfait.
Un mot pour la fin ?
Déjà, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Quoi dire de plus ? Je suis qu'une personne normale qui aime le jeu, puis un jour qui a une idée, qui l'a amené jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose de fantastique, d'être capable d'avoir une idée, de l'amener jusqu'à son terme. Pour ce qui concerne le mathématique et même mon jeu du pas, après, c'est bien de créer un jeu, mais si on veut le mettre en plus disponible dans un commerce, ce qu'il faut, c'est créer un conditionnement et puis lui donner un visuel. Donc dans ces cas-là, on s'adresse soit à des gens qui maîtrisent parfaitement la chose. Moi, de mon côté, j'ai demandé à un ami qui s'appelle Cédric Saillant, qui est un petit peu notre président au niveau du Bocal 49, qui m'a aidé énormément pour faire des visuels de jeu, enfin de mon jeu du pain. Pour ce qui concerne les différents visuels de mes jeux de mathématiques et la boîte aux lettres, j'ai demandé à une amie qui fait les marchés, qui est l'atelier ZAB. Donc c'est une personne que je voyais sur les marchés, qui fait des magnettes, qui fait des peintures, qui fait des choses comme ça. Et donc je lui ai demandé qu'on travaille ensemble pour faire les visuels dont j'avais besoin. Et avec tout ça, avec toutes les bonnes volontés, puis tous les gens qui sont autour, j'ai amené mon petit grain de sel de manière à faire une petite mécanique de mon côté. Et ce sont des choses qui plaisent, donc c'est ce qui est le principal.
Alors Monsieur Pasquini, je vous remercie et je vous souhaite encore beaucoup de succès pour vos jeux. Je vous dis à bientôt sur notre antenne.
Ce sera avec plaisir, il n'y a pas de problème.
Au revoir.
Au revoir.
On continue ce magazine sur les jeux avec André Jaunet, co-créateur du jeu Les Sept Familles en patois sartois. Alors Monsieur Jaunet, bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, présentez-vous, quel est votre parcours ?
Alors, je suis né dans une famille d'agriculteurs dans le canton de Pontvalin, à Recueil, dans un lieu dit qui s'appelle la Bossifière. Donc j'ai baigné dans le patois rural, dans toute mon enfance et ma jeunesse. Et puis ensuite, j'ai eu une carrière très diversifiée dans l'enseignement, le social, la psychiatrie, les jeunes délinquants, et puis le développement économique, la concertation, le financement d'entreprises. Donc j'ai eu un parcours professionnel très diversifié et je suis à la retraite depuis quelques années. Et donc, retrouvant mon territoire d'origine, après beaucoup de déplacements, j'ai retrouvé aussi le patois, voulu transmettre à mes petits-enfants d'abord. Et c'est en exerçant cette transmission que j'ai commencé à créer pour eux un jeu, et avec eux un jeu de cette famille, et que je me suis aperçu qu'il plaisait à mes amis, mes relations, et donc je l'ai publié. En tout cas, c'est un jeu qui est plutôt consacré aux enfants, mais qui se pratique heureusement à tous les âges.
Et en effet, vous avez créé ce jeu avec Félicien Vasseur. Déjà, présentez-nous ce jeu.
Alors, c'est un jeu de cette famille, mais qui les familles ne sont pas des familles classiques avec papa, maman, les enfants. Ce sont des familles de thèmes, plutôt. Donc, il y a les animaux, les gens, la nourriture, etc. La santé. Donc, les sept familles sont des thèmes. Et dans chacune des familles, il y a des sujets sur les animaux. Il y a la brebis, la berbie, le gorin, etc. Et puis, sur les gens, il y a le kenyo, la fumelle, etc. Et sur chacune des cartes, il y a un texte en patois avec sa traduction et un dessin, une illustration avec pas mal de couleurs. Et donc, chaque carte, en fait, raconte une petite histoire.
Et depuis quand existe la première édition de ce jeu ?
Alors la première édition, c'était il y a 3 ans, et puis en retravaillant avec Félicien Vasseur pour actualiser, on s'est dit qu'on allait faire une transformation complète. D'abord, lui, il était agacé par le fait qu'il y avait du plastique, c'était une boîte en plastique, donc on a voulu faire une boîte en carton. On a voulu travailler avec un éditeur français, qui est un éditeur breton, et on a voulu enrichir les textes et les couleurs, et compléter d'un lexique. Voilà. Donc on a transformé assez complètement le jeu.
Et pourquoi justement mettre à l'honneur le patois sartois ?
Alors, il y a des raisons qui sont un peu des raisons affectives, c'est-à-dire on est attaché à se parler, à ces pépites, à ces mots, ces expressions, ces histoires, à la gastronomie qu'on peut découvrir avec, etc. Donc ça, c'est des choses un peu affectives, et puis c'est ce qu'on ressent aussi quand on parle du jeu. On va très souvent dans les fêtes locales, je fais du conte en sartois, etc. Donc on rencontre pas mal de gens, et les gens sont extrêmement émus, à la fois de reparler une langue dont ils ont tendance à avoir perdu un peu la pratique. Donc il y a une émotion très forte, très, très curieuse, très étonnante, très touchante. Moi, j'ai écrit des bouquins techniques dans ma vie sur les entreprises, le financement, le développement local, etc. Et je n'ai jamais eu avec mes lecteurs une intensité de relation comme celle que j'éprouve avec ce jeu. Donc il y a l'idée de partager quelque chose, de l'honorer aussi, de montrer qu'avec ce parler, on peut dire des choses tout à fait diverses, des choses drôles, mais aussi des choses émouvantes, des choses qui nous renvoient à nos légendes, etc. Donc la palette est très large. Et puis il y a aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur le développement des territoires, je pense que quand on vit sur un territoire, même si c'est pas son territoire de naissance d'ailleurs, c'est intéressant de le découvrir, d'en connaître les richesses. Elles sont souvent très, très agréables, et donc c'est important pour chacun, je pense, de redécouvrir cette dimension territoriale, cette dimension sensible qu'on a tendance un peu à perdre avec la mondialisation, avec les écrans, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour la personnalité, pour la culture personnelle. Et aussi, c'est quelque chose qui se partage très bien. Moi, je préconise à chacun d'avoir son petit trésor de patois avec quelques mots, quelques expressions, quelques histoires, quelques recettes, etc. Et chacun éprouve le fait qu'on fait un grand cadeau à ses amis, à sa famille, etc. quand on partage justement une recette ou une histoire en patois.
Et justement, ce jeu, comment vous l'avez créé et quel est votre rôle à chacun dans la création de ce jeu ?
Alors, moi, je suis à l'origine, je l'ai créé avec mes enfants, donc en jouant avec eux. Et puis, quand nous avons pensé à publier, on a considéré qu'il fallait des illustrations sur les cartes. Et il se trouve que j'ai un neveu qui terminait l'école des Beaux-Arts du Mans, Félicien Vasseur, et qui était très heureux de se livrer à cet exercice de création. Et voilà, donc on a travaillé avec beaucoup de proximité, naturellement, puisqu'on se connaît depuis longtemps. Je le connais depuis toujours. Et on a travaillé ensemble de façon très agréable. Et là, on actualise de façon très agréable aussi.
Et oui, hein, vous avez sorti une réédition de ce jeu. Déjà, quelle chose change à travers ce jeu ?
Alors, je disais, il y a plus de textes et plus d'histoires. Et puis, on a aussi introduit des mots, des termes un peu nouveaux. On a introduit d'ailleurs « divertissouet », qui est un mot qui est finalement assez peu connu et assez riche. Et donc, « divertissouet », ça peut être la femme, ça peut être le lit. Et ça peut même être un endroit de la femme que je ne peux pas nommer ici, comme disait Georges Brassens. Donc c'est un mot à plusieurs sens qu'on a eu plaisir à proposer et à illustrer avec une rose.
Alors concrètement, quel est l'esprit de ce jeu ?
L'esprit, c'est un esprit de découverte, puisque on a plaisir, enfin c'est ce qu'on observe, à lire et à s'exercer à prononcer au mieux les phrases. Les gens échangent très souvent. Il y a quelqu'un qui, celui qui a acheté le jeu, qui est quelquefois la grand-mère ou le grand-père, qui le partage avec ses petits-enfants. Et on s'aperçoit que ça marche très bien dans ce cadre, par exemple, familial ou dans un cadre amical. Il y a d'ailleurs des gens qui jouent, effectivement, selon le principe du jeu de cette famille, mais il y en a beaucoup aussi qui se contentent de lire et de discuter les expressions qui sont inscrites sur chacune des cartes, évidemment à plusieurs. Et le plaisir se trouve aussi là. Donc c'est un plaisir de découverte de notre territoire et de son parler traditionnel, et puis de ses légendes. Enfin, on insiste un petit peu dans le jeu sur, par exemple, la ferme de chats ou la ferme du Grand Nulle Part, qui est une histoire de ferme avec des géants qui existent dans une large partie de l'ouest de la France, avec des noms différents. La ferme change de nom, mais les personnages sont un peu analogues. Il y a dans cette ferme, la moisson dure 14 ou 15 mois, les oies picorent les étoiles, etc. Les poudriettes font une échelle pour grimper dedans, et gare à celui qui tombe, il est bien difficile d'en sortir, etc. Donc ça, c'est un exemple de contenu un peu légendaire qui était très présent encore quand j'étais enfant, dans les batteries, dans les fêtes locales, etc. Puisque une personne commençait à raconter quelque chose de la ferme de Chia et les autres surenchérissaient, etc. Mais c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Et on n'a pas le droit de complètement perdre ce... Enfin, j'estime qu'on n'a pas le droit de perdre complètement ce patrimoine. C'est le patrimoine qui a inspiré Rabelais dans Gargantua, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de... Et en plus de très transmissible aux enfants, on a travaillé avec ce thème à l'école de Luché-Pringé, avec les institutrices, et on s'aperçoit que les enfants se prêtent facilement à ce jeu, qui consiste à exagérer des situations, des personnages, etc. Donc, il y a là un petit trésor traditionnel à absolument partager, etc.
Et concrètement, il s'adresse à qui, ce jeu ?
Eh bien, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui ont parlé patois, ou tentent de parler patois, et il s'adresse à ceux qui, habitant notre territoire, souhaitent en connaître un petit peu l'histoire du point de vue du langage, de l'imaginaire, des expressions, etc. Et l'esprit, un peu, puisque tout ça, ça rend compte de l'esprit sartois. Donc, il s'adresse à tout un chacun. D'ailleurs, les gens qui l'achètent sont très différents. Il n'y a pas de standard.
Et pourquoi acheter ce jeu ?
Eh ben, pour soi-même, pour l'offrir, ça coûte pas très cher, c'est 10 euros, c'est présent dans la plupart des librairies sartoises. Et bon, plaisant pour soi, et c'est quelque chose de très original à offrir, je crois. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Il faut que, vraiment, j'y insiste, le territoire, on l'a perdu un peu de vue, et y compris son propre territoire, alors que cette dimension territoriale, elle est de plus en plus importante, et elle est plus importante pour traiter les grands défis du moment, l'économie, l'écologie, etc. Beaucoup de choses vont passer par le territoire. Et le territoire, c'est aussi un imaginaire, une histoire en général, et puis aussi une histoire de la langue. Il n'y a pas que le patrimoine immatériel, les pierres, les châteaux, les églises, etc. Il y a aussi le patrimoine immatériel. Et donc, ce patrimoine immatériel, il est au moins aussi important que l'autre, et il est peut-être encore un peu négligé.
Et avez-vous des contacts pour ceux qui souhaitent acquérir justement ce jeu, ou plus d'informations sur ce jeu de cette famille en patois sartois ?
Alors, pour l'acquérir, il y a un site sur Facebook qui indique un peu les lieux où on peut l'acheter. Mais en gros, c'est l'ensemble des librairies que vous avez au Mans, Thuars, Doucet, Bulle, etc. Ou dans les petites villes, ou même dans les villages sartois, librairie à La Flèche, à Sablé, à Vibray, à La Ferté-Bernard, que sais-je. Dans certains offices de tourisme aussi, donc c'est assez facile de le trouver. Et comme moi aussi, dans les librairies, par exemple. Et tout ça, ça fait écho aussi, j'y insiste, c'est un point complémentaire, au fait que plusieurs créateurs de livres, de jeux sartois se sont réunis dans l'association ELA il y a 2 ans et que cette association, elle a un programme pour justement partager ces ressources de patrimoine immatériel et de langage et de patois. Et on va lancer dans les mois qui viennent des ELA-piades, puisque cette association s'appelle ELA, expression bien sartoise. Ces ELA-piades seront une sorte d'invitation pour l'ensemble des sartois ou des gens qui aiment la Sarthe à créer, à s'exprimer, à écrire avec des mots sartois. Donc on est dans un mouvement qui, je crois, est en train de gagner en importance.
Et sinon, y a-t-il des projets pour ce jeu de cette famille ?
Les projets, c'est de le présenter dans les événements. Comme je disais tout à l'heure, moi je compte un peu, donc je vais dans les bibliothèques, dans des événements, participer à des promenades où je compte. Et là, je partage évidemment, où nous allons aussi souvent dans les fêtes locales, dans les commises, dans les marchés. Et là aussi, c'est très agréable de partager, donc on n'hésite pas à le faire.
Un mot pour la fin ?
Je dis souvent, constituons chacun, nous, Sartois, notre petit trésor en patrimoine imaginaire. C'est un trésor qui est très agréable à partager. Quand on le partage, on s'enrichit, on enrichit les autres, etc. Donc il y a plein de mots magnifiques à partager, à mignonner, guermi, divertissoué, beurré, bouine, là, etc. Ça ne manque pas et c'est très agréable comme pratique.
Alors Monsieur Jaunet, je vous remercie et je vous souhaite encore un beau succès pour bien sûr cette réédition de ce jeu de cette famille en patois sartois. Je vous dis à bientôt sur notre antenne.
À très bientôt et merci pour votre attention et votre travail à la radio.
Au revoir.
Au revoir.